Oui, on en discutait hors micro là juste avant de commencer. On parlait en fait des différents modèles, et surtout le modèle qui est dominant et qui est encore un modèle actuel, c'est le modèle de la carte cognitive. On parlait de modèle fondateur en fait hein, dans cette discipline quand on s'intéresse à la cognition spatiale, très naturellement est associé à ce modèle, cette discipline, le modèle de la carte cognitive qui a été élaboré par Tolman dans les années 40. Alors déjà, est-ce que tu peux peut-être nous en dire deux mots de ce modèle exactement? Qu'est-ce que ça postule? Quelles sont les hypothèses fortes en fait de cette théorie de la carte cognitive?
Alors à l'époque de Tolman, le courant théorique archidominant, c'était le courant behavioriste ou connexionniste, c'est la même chose. Et ce courant, en fait, était hérité de l'observation des réflexes conditionnés pavloviens. À savoir qu'il considérait que l'apprentissage se faisait sous l'influence de deux grands facteurs, on va dire. Premièrement, la répétition des essais, et deuxièmement, le renforcement, autrement dit, la récompense. Et qu'il n'y avait pas d'apprentissage possible sans récompense et sans répétition des essais. C'était ça la base du courant connexionniste, behavioriste. Donc tout apprentissage reposait sur l'acquisition de relations entre des stimuli et des réponses, et c'est ces stimuli et ces réponses qui guidaient le comportement de l'animal, et en particulier pour ce qui concerne le comportement spatial, qui guidait les réponses de l'animal dans le labyrinthe, dans les labyrinthes de l'époque. Donc à un point de choix, l'animal voyait un tel stimulus et répondait en fournissant telle réponse. Et au point de choix suivant, c'était un autre stimulus, une autre réponse. Et alors, dans les années 40, Tolman, lui, a pris le contre-pied en disant la chose suivante, en disant qu'il y avait un grand nombre de faits expérimentaux qui n'étaient pas compatibles avec l'explication behavioriste des comportements spatiaux. Et parmi ces arguments expérimentaux, les arguments expérimentaux qu'il mentionnait, il y en avait au moins deux qui étaient importants. Premièrement, l'apprentissage pouvait procéder sans renforcement explicite de la part de l'expérimentateur. Autrement dit, l'animal pouvait apprendre quelque chose sans même être récompensé. Et la deuxième chose, c'était qu'un certain nombre de comportements étaient juste trop flexibles pour pouvoir être expliqués en simples termes d'association entre des stimuli et des réponses, qui nécessitait la répétition. Comme ces apprentissages étaient, ces réactions spatiales étaient trop rapides, il y avait autre chose. Et donc il fait l'hypothèse que le cerveau de l'organisme, de l'animal, tout comme le cerveau de l'homme, est capable de construire une représentation des relations causales dans l'environnement. Autrement dit, que tel comportement, l'organisme peut intégrer l'idée que tel comportement entraîne telle conséquence. Et ces relations causales incluaient évidemment les relations spatiales, à savoir qu'il existe dans l'environnement des possibilités de déplacement qui sont mémorisées et sur la base desquelles l'animal peut travailler en quelque sorte, peut imaginer de nouvelles solutions, ce qui explique la flexibilité de son comportement, en particulier dans des situations où il peut prendre un raccourci, ou donc un chemin plus court que le chemin qu'il a appris auparavant, ou au contraire lorsqu'il doit effectuer un détour, c'est-à-dire que par la force des choses, il est obligé de se détourner du chemin qu'il a appris pour innover en quelque sorte et prendre une voie nouvelle qui est évidemment plus longue, mais qui reste malgré tout la voie optimale. Et donc, il y avait ce débat entre les deux courants, behavioriste et cognitif. Et il y a eu tout un débat dans les années 50 et beaucoup, beaucoup d'expériences qui ont été faites, qui ont toutes abouti à la conclusion que, effectivement, dans certaines situations, l'animal pouvait utiliser des réponses de type associatif, stimulus-réponse, et dans d'autres situations, l'animal faisait preuve d'une certaine forme d'intelligence, c'est-à-dire utiliser une représentation de l'environnement. Et là où la bascule s'est opérée, c'est avec la fameuse découverte des cellules de Lieu de John O'Keefe. Puisqu'en 71, il découvre que des neurones dans l'hippocampe peuvent coder les lieux de l'environnement et collectivement représentent, cartographient en quelque sorte l'environnement dans lequel l'animal se déplace. Donc ça a été un argument qui a été majeur pour dire si il existe une carte de l'environnement dans le cerveau, alors cette carte pourrait bien se situer dans l'hippocampe. Donc tout l'intérêt qui a été développé par la suite pour les travaux sur l'hippocampe, qui ont abouti effectivement à la confirmation que cette structure était fondamentale pour le comportement spatial et pour la navigation spatiale, et ensuite à beaucoup de travaux qui se sont comment dire, qui ont été développés pour essayer de comprendre pourquoi cette structure était si importante.
Oui, si je peux t'interrompre une minute, Bruno. Deux choses, une remarque et une question. La remarque, c'est à propos de ce que tu disais de Tolman, qui avait remarqué qu'il y avait un certain nombre de faits expérimentaux qui ne rentraient pas dans le cadre du modèle behavioriste, et que donc ça l'avait amené à réviser en quelque sorte ce modèle. Et ça, je trouve que c'est vraiment intéressant parce que c'est quelque chose qu'on voit dans des tas de domaines et qui avait fait réfléchir Thomas Kuhn dans ce livre magnifique qui s'appelle La structure des révolutions scientifiques, où lui, il analyse, enfin, il part du domaine de la physique, qui est plus ancien, etc., que la biologie, et pour donner des exemples de ce type où on a un modèle dominant. Et on travaille dans ce modèle dominant, mais il y a énormément il y a, petit à petit, il y a beaucoup de données qui s'accumulent et qui rentrent pas, qui ne peuvent pas être prises en compte par le modèle. Et du coup, ça amène à réviser le modèle. Et donc là, ce que tu disais rentre tout à fait dans ce cadre-là. Donc là, c'était une remarque parce que c'est vraiment comment dire, une évolution qu'on trouve dans différents domaines. L'autre point qui m'a un peu étonnée, c'est tu mets ensemble le modèle behavioriste et modèle connexionniste. Et il y a d'autres domaines dans le langage, par exemple, on tend à considérer que ce sont vraiment des modèles différents. Et donc j'étais un peu surprise que tu
Oui,
m'aies.
parce qu'à l'époque, voilà, c'est là où la terminologie a tant des pièges aux utilisateurs. À l'époque, ils utilisaient indifféremment les deux. Parce
Ah
qu'en fait,
ouais.
le modèle connexionniste tel qu'il l'entendait dans Hull, Watson, tous ces tenants du courant behavioriste, c'était que c'était des connexions entre des relations entre des stimuli et des réponses qu'ils appelaient des connexions. Il faisait l'hypothèse que dans le cerveau, les neurones qui traitaient les stimuli et les réponses étaient reliés par des connexions qui étaient renforcées si le comportement aboutissait à une récompense. Voilà.
D'accord.
Donc c'était un modèle presque cybernétique. En fait,
Tout à fait.
dans lequel voilà, tu as des connexions et voilà. Mais behavioriste est plus classique,
D'accord.
c'est vrai.
Merci. Oui, tout à fait. Merci pour cette précision.
Et du coup, le modèle de la carte cognitive, est-ce que tu dirais qu'il est encore dominant à l'heure actuelle dans le domaine de la cognition spatiale, ou est-ce qu'il a été amendé assez sévèrement, peut-être avec d'autres données, peut-être en élargissant aussi le rôle de l'hippocampe, hein, en considérant l'hippocampe non plus comme le centre de cette cartographie, de cette carte cognitive, mais aussi comme une structure qui va jouer un rôle plus large dans la mémoire?
Ouais. La première chose, c'est déjà que ce terme de carte cognitive, même si il est comment dire attractif, est assez flou. Parce qu'une carte, d'abord, je pense que dans l'esprit de Tolman, il n'était pas question de dire que c'était une carte euclidienne, une carte comme une carte vue du dessus, une carte vue d'oiseau. C'était plus comme un standard téléphonique dans lequel il y a des connexions qui peuvent se changer, etc. Je pense. Ça, c'est la première chose. Et de toute façon, il y a un flou, parce que Par essence, il s'agit de phénomènes de représentation d'événements extérieurs qui se situent dans le cerveau et qui sont l'isomorphisme entre les deux niveaux est pas évident à appréhender. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que la structure même de la carte, même si elle est floue, elle peut être différente, elle peut répondre à différentes propriétés. Par exemple, ce n'est pas la même chose de considérer que l'animal code dans cette carte entre guillemets, des relations métriques, des angles et des distances, ou des relations topologiques, c'est-à-dire des relations de voisinage, de connexité, qui présentent aussi la capacité pour l'animal d'inférer des chemins nouveaux. Puisque la propriété de cette carte, in fine, au niveau du comportement, c'est la capacité de innover en quelque sorte dans son espace. Et donc, moi, dans les années 90, j'ai fait ce fameux papier que je te renvoyais, où justement je disais, mais c'est quoi la carte exactement ? Et je faisais l'hypothèse que l'animal disposait des deux types de cartes, c'est-à-dire que pour un certain type de déplacement, il pouvait utiliser des relations métriques, en angle et en distance. Il savait dans quelle direction se déplacer, à quelle distance, pendant quelle distance il devait se déplacer. Et il disposait également d'une carte topologique, donc sans distance et sans angle, mais avec des relations de connexité, de voisinage.
Tout à fait. Et donc là, tu fais référence à l'article de 1993 dans lequel tu proposes... Oui. Alors d'abord, je voudrais juste faire une remarque. Moi, j'ai été très étonnée qu'en 1989 et 1993, tu aies publié des articles tout seul. J'ai trouvé vraiment étonnant. Ça...
Bah oui. Moi aussi. Rétrospectivement, moi aussi. Non, l'article de 93, c'est pas tellement étonnant parce que c'était vraiment pour être franc, dans les années 88-89, après ma rencontre avec Bob Mueller, j'étais plus tellement satisfait des explications qui étaient données par les membres de mon équipe.
D'accord.
Et j'ai commencé à réfléchir à pourquoi j'étais pas content, enfin pourquoi j'étais pas satisfait. Et il y avait deux choses qui me rendaient insatisfait. C'était premièrement qu'il n'y avait pas de recherche des mécanismes neurobiologiques qui sous-tendaient les processus comportementaux qui étaient défendus. Et il y avait une espèce, de dogme sur la nature des représentations spatiales. C'était pas du tout, enfin, ça peut paraître un peu négatif de dire dogme, mais c'était simplement que voilà, les chercheurs avec lesquels je travaillais croyaient vraiment que l'animal, dans toutes les situations, utilisait voilà, une représentation, que c'était voilà, dans sa nature. Et donc j'ai commencé à réfléchir, et c'est ce papier de 93, en fait, il répond à ces deux questions. C'est-à-dire que je me suis dit, il est possible qu'en fait, il y ait différents formats de représentation dans le cerveau, et qu'on utilise ces formats à la demande, l'un ou l'autre à la demande, en fonction de notre familiarité avec l'environnement, de notre de motivation, enfin il y a beaucoup de raisons qui peuvent conduire à l'utilisation de l'un ou l'autre de ces formats, donc le format topologique ou le format métrique. Et de même que l'autre dogme, c'était qu'à l'époque, l'hippocampe était la base de la représentation. La carte cognitive, j'avais du mal à relier cette affirmation avec ce qu'on commençait à comprendre des propriétés électrophysiologiques des neurones dans différentes régions, y compris l'hippocampe, mais surtout dans certains cortex. Et donc, grosso modo, je me suis raconté mon histoire. J'ai essayé de me faire un modèle à moi, interne, qui me rendait heureux.
Voilà, et c'est ce que tu as publié en 1993. Voilà. Du coup, ça veut dire qu'il faut quand même avoir un esprit un peu rebelle pour faire de la science, d'une certaine manière. Il ne faut pas hésiter à s'élever contre les dogmes en cours pour développer propres idées.
Oui, je pense.
C'est intéressant, ça, quand même.
Et Bon, après, on ne peut pas être un rebelle en permanence. Hein.
Ah non, surtout pas.
Il y a un moment, il faut accepter quand même qu'on n'a pas forcément raison sur tout.
Oui, alors justement, par rapport à ce modèle de 93, alors c'est des questions très naïves, hein, parce que je ne suis vraiment pas experte dans le domaine, mais donc j'ai compris que tu pensais qu'il y avait deux représentations de l'information, une représentation de l'information topologique dans l'hippocampe et une représentation des informations métriques qui, elle, était plus dans le cortex pariétal postérieur. Et donc, je me demandais, est-ce que c'est ce que tu crois toujours presque plus de 30 ans plus tard, quoi?
J'avais presque raison.
C'est vrai?
mais pas complètement. Ah. Je crois toujours qu'effectivement il y a une dominante. Bon, d'abord évidemment que toutes ces structures elles travaillent ensemble, il y a des communications, il y a des, bon, mais après tout ça ne nous empêche pas quand même dans un modèle de faire l'hypothèse que une structure est plus armée en quelque sorte pour traiter un type d'information qu'une autre. Et là où je pense que je m'étais trompé, enfin trompé partiellement, parce que ça peut revenir, c'était en disant, pour des raisons de connexion anatomique, je pense que le cortex pariétal postérieur est le site du traitement des informations métriques. Et pourquoi je pense que j'avais que partiellement raison, c'est que 15, non, même pas 15 ans, oui, une douzaine d'années après ce papier, il y a eu la découverte des cellules de Gry dans le cortex entorhinal médian, qui, alors là, pour le coup, fournit toute l'information métrique dont l'organisme peut avoir besoin, savoir les angles et les distances. Mais après tout, donc j'avais tort sur ce point, sauf que le cortex entorhinal médian, c'est là où je défends encore ma paroisse, reçoit des informations du cortex pariétal postérieur. Qui, lui, est en prise directe, c'est ce que j'ai argumenté dans le papier, avec les informations visuelles et avec les informations motrices, avec les cortex moteurs et les cortex visuels. Donc rien n'exclut la possibilité que, malgré tout, la brique de base de la construction de la représentation métrique se fasse dans le cortex pariétal postérieur, qui donne finalement cette information au cortex entorhinal médian, possiblement à la base de la représentation métrique finale, telle qu'elle s'exprime au niveau de l'activité des neurones.
Et donc là, avec les études de connectivité, vous ne pouvez pas déterminer la causalité, enfin savoir si c'est le cortex pariétal postérieur qui envoie des infos au cortex entorhinal ou l'inverse ou,
Non, ça c'est très compliqué, je pense, parce qu'on est en train de parler de... le problème du comportement spatial, c'est qu'il n'est pas que spatial, il est temporel aussi, par essence. Tout comportement se passe dans le temps. Et là, donc, il peut y avoir beaucoup de difficultés à extraire qu'est-ce qui guide l'autre à cause de cette confusion possible entre espace et temps.
Et du coup, moi, la question que je me posais, c'est que, en fait, très rapidement, dans ta carrière, tu t'es intéressé à d'autres structures, tu disais, hein, que l'hippocampe. Et qu'est-ce qui t'a amené à sortir un petit peu de l'hippocampe, justement? C'est quoi les indices qui t'ont fait penser que la vision hippocampo-centrée, finalement, dans la cognition spatiale, c'était quelque chose qui était partiellement vrai et que très rapidement, il fallait regarder aussi ce qui se passait dans nos structures. Et puis surtout, qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser à ces structures en particulier? Je pense le cortex préfrontal.
Et oui, ouais. C'est la structure à laquelle j'ai consacré le plus de temps, finalement, hein, au cours de ma carrière. Enfin, en dehors de l'hippocampe. Qu'est-ce qui m'a fait penser? C'est tout bête. C'est que lors de mon premier post-doctorat, je suis arrivé au Canada. Je suis arrivé avec un projet que j'avais entièrement conçu de A jusqu'à Z, et mon superviseur, le professeur Tom Herman, m'avait dit « Ok, je trouve ton projet super, mais je te laisserai le faire que si tu peux travailler sur un autre projet, à savoir essayer de comprendre si le cortex préfrontal peut jouer un rôle dans un comportement spatial que lui, dont lui était spécialiste, qu'on appelait à l'époque le problème des trois tables, la tâche de résolution de problèmes. Et donc, j'ai été mis sur la piste du cortex frontal, tout simplement par ce superviseur. Voilà, la raison est vraiment bête. Mais du coup, comme personne ne travaillait là-dessus à l'époque, j'ai été obligé de passer des dizaines, voire des centaines d'heures dans la bibliothèque de l'université canadienne où je me trouvais, pour essayer de comprendre en quoi ce cortex, cette partie du cortex, pourrait avoir un rôle important dans le comportement spatial. Et en particulier, j'ai consacré vraiment, vraiment beaucoup de temps sur l'anatomie des connexions entre cette structure et les autres. Et voilà. Et donc mon intérêt, c'est développé avec les premiers résultats, parce que les résultats montraient que ça jouait un rôle dans le comportement spatial, mais pas le même que l'hippocampe. Et c'est ça qui était intéressant, finalement. C'était d'observer que les structures auxquelles je m'étais intéressé avaient des spécificités et qu'elles pouvaient éventuellement être dotées de fonctions différentes.
Et donc, du coup, ça, c'est vraiment maintenant une conception admise que... Enfin, est-ce que la plupart des chercheurs dans ce domaine, encore une fois, c'est une question naïve, sont d'accord pour dire que il y a deux structures, ou enfin, peut-être plusieurs, qui sont importantes dans la navigation spatiale, à la fois l'hippocampe et le cortex préfrontal, et aussi, comme tu le disais tout à l'heure, alors le cortex pariétal postérieur et le cortex entorhinal. Donc oui, du coup, ça s'étoffe quand même.
Ah oui, oui, maintenant on parle plus, maintenant il y a un réseau. Ah. Alors premièrement, oui, pour répondre à la première partie de ta question, oui, le cortex préfrontal, dont on a longtemps nié l'existence chez le rongeur quand même, hein, donc c'est une structure qu'on va pas dire homologue du cortex préfrontal chez l'homme, mais dont la fonction est analogue de celle qu'on trouve dans le cortex préfrontal humain. Oui, ce cortex préfrontal, on reconnaît de plus en plus son importance dans les comportements qui nous intéressent. Et d'autre part, oui, maintenant on parle d'un réseau, et un réseau qui est étendu, dans lequel il y a évidemment les structures dont on a parlé, cortex frontal, pariétal postérieur, entorhinal médian, hippocampe, et les structures qui sont connectées avec l'hippocampe, certains noyaux thalamiques, et de plus en plus de noyaux thalamiques. Je ne piloguerai pas sur les résultats de mon collègue ici présent.
Ah, bah peut-être qu'il pourrait nous en dire un mot, parce que moi, je suis au courant. Hein.
Ouais, ça sera une autre occasion. Alors.
Ouais. D'accord.
Et on a un réseau étendu de structures qui communiquent, mais on a quand même dans ce réseau de structures un hub, et ce hub, c'est quand même, à mon avis, l'hippocampe.
C'est ça, on revient toujours finalement à l'hippocampe à un moment donné, quand on raconte l'histoire de la manière dont se construit l'espace. Ouais. On passe à un moment donné ou à un autre par l'hippocampe, et puis peut-être même pas, des fois on y revient. Donc c'est vraiment la place centrale.